Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le mercredi 27 novembre 2019 et vous écoutez le meilleur podcast dédié au e-commerce et au digital marketing, le Café de l'e-commerce. Je suis Adrien et elle, c'est Laetitia.
Bonjour Adrien, ici Laetitia. On enregistre l'épisode 17 du Café de l'e-commerce. Suivez le backstage sur Instagram, toutes nos stories, découvrez les coulisses de l'émission sur nos réseaux sociaux. On vous propose toujours de faire votre veille sur un ton différent chaque semaine.
Laetitia.
Adrien. Prêt ? Synchronisation des montres. En intro, Laetitia, parce que ça y est,
la blague.
C'était son intro. Comment ça va ?
Ça va bien, et toi ?
Ouais, très bien. Alors, qu'est-ce que tu as à me raconter ? Qu'est-ce qui s'est passé de beau la semaine dernière ?
Alors, la semaine dernière, je devais t'accompagner sur un certain nombre d'événements. Finalement, je suis restée à WeWork, parce que j'avais plusieurs choses à faire, notamment l'animation d'un webinar. Je travaille pour un éditeur de logiciels qui fait du contenu, qui propose une solution de gestion de contenu. Et donc, j'ai animé un webinar dédié à la gestion de contenu. C'est une trilogie, donc voilà, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait sur la série ou même sur des podcasts. On a pris le parti pris de prendre un ton assez décalé, ce qui n'est pas évident sur ce genre de solution, et surtout de ne pas faire la promotion de notre solution. Et là, c'était un double challenge. Et le troisième challenge en réalité, c'était de faire ça en 20 minutes. Je ne sais pas si tu as l'habitude, Adrien, enfin oui, je le sais, tu as l'habitude d'animer des webinars ou d'assister à des webinars. C'est toujours très long, c'est pompeux et chacun vend sa solution. Néanmoins, c'est un levier marketing qui est, je n'ai pas envie de dire indispensable, mais en tout cas.
Ça coûte pas cher,
tu peux avoir des beaux impacts. Voilà, et surtout, ça permet de créer du contenu et de le recycler. Donc c'était plus dans cette stratégie-là que moi j'ai décidé de faire cette série de webinaires. Et puis c'est surtout que là on arrive à la période des budgets dans les entreprises, on se pose des questions sur ce qu'on va faire comme gros projet IT, marketing l'année prochaine. Donc le timing était plutôt bon et propice en tout cas à faire germer l'idée de pourquoi est-ce que la gestion de contenu est souvent très mal organisée au sein des organisations IT, e-commerce et marketing. Pourquoi est-ce que ça fait très peur et comment on peut sortir de ce cercle un peu vicieux en se disant que l'organisation du contenu, c'est forcément très chaotique.
C'était quoi le nom du webinaire, le
titre ? Non, la gestion de contenu n'est pas synonyme de chaos.
Ok, bah c'est très bien. C'est un peu, ouais, pas très polémique, mais bon, c'est un peu punchy. Donc
c'est punchy, c'est délicat parce que la gestion de contenu, ça fait peur. Et on l'envisage rarement comme un levier de croissance. Et nous, c'est ce qu'on voulait démontrer, c'est un véritable levier de croissance quand c'est bien organisé.
Il y a eu des questions à la fin ?
Non, ouais. Alors, les questions qui reviennent souvent, c'est sur la gestion des contenus sur les réseaux sociaux. On en parle souvent dans ce podcast. Il y a des plateformes qui ont émergé. Forcément, on va parler d'Instagram, de Pinterest, de toutes ces choses-là. La question aujourd'hui qui se pose pour les marques, c'est comment est-ce que je crée, j'agrège du contenu et je le diffuse de manière réfléchie, pertinente et organisée. L'intérêt d'être équipé de solutions de gestion de marketing et de content marketing, c'est ça en fait. C'est de savoir comment est-ce que je vais m'adresser sur Instagram en stories et surtout comment je vais d'abord réfléchir à mon contenu, à le rédiger, à le diffuser, à le partager même en interne. Alors quand je parle de partager en interne, c'est pas juste aller liker et partager, non, c'est comment est-ce que je vais le partager avec ma filiale en Suède, voilà. Donc c'est des questions qui reviennent très souvent. La gestion du contenu sur les réseaux sociaux, c'est la question qui revient tout le temps. Voilà.
Donc c'était un bon webinaire, tu dirais ?
Ouais, c'est un bon webinaire. Il y a encore deux dates pour la suite. Voilà.
Super. Écoute, moi, la semaine dernière, on devait y aller ensemble et finalement, j'y suis allé tout seul à Lille, un événement, le Connected Day de l'Institut du Commerce Connecté. C'est un événement qui s'est déroulé donc le 21 novembre 2019. C'est un peu le pendant de la Paris Retail Week ou du One to One Monaco, mais dans le Nord. Mais ça parle toujours e-commerce avec pas mal de retailers. On devait être peut-être 300 personnes, je dirais, quelque chose comme ça. Donc c'était assez intéressant. Avant peut-être de donner le feedback, un petit peu comment s'est déroulée la journée, j'en ai profité pour interviewer pendant quelques minutes Michel Koch, qui qui est le président de l'Institut du Commerce Connecté, qui organise cette journée. Alors, je le connaissais de ma précédente vie, où il était chez Market Spencer, il travaillait en Angleterre, c'était il y a 10 ans, je crois. Et donc, on s'est perdu de vue, et puis quand on s'est retrouvé, c'était assez amusant de se retrouver dans des situations complètement, complètement différentes. Donc, il a accepté d'échanger quelques minutes avec moi, et puis on espérera peut-être le voir dans un futur, dans notre podcast, pour pouvoir vraiment échanger un peu plus avec lui, parce que c'est quelqu'un de passionnant. Donc, on va écouter, Laetitia, l'interview, les quelques minutes que j'ai pu échanger avec lui. Ça dure 6-7 minutes, et ensuite, je vais te donner mon feedback. Bonjour Michel.
Bonjour Adrien.
Merci encore d'accepter d'échanger au micro. Je sais que tu as une journée très chargée aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter et présenter l'événement Connected Commerce ?
Alors, je suis Michel Coq. Je dirige l'Institut du Commerce Connecté. On organise le Connected Day tous les ans en fin novembre, depuis 3 ans. C'est l'événement Retail Tech du nord de la France, avec rencontres entre start-up, retailers et débats thématiques sur tous les grands sujets qui font que le retail se transforme aujourd'hui, en particulier au niveau du digital.
Comment tu le caractériserais par rapport aux autres événements qui existent en France sur le marché ?
Alors, on a l'ambition humble de devenir le Monaco du Nord sur le plan de l'événement, parce qu'on a ce parti pris d'être très sélect au niveau de qui on invite comme retailer, du niveau de qualité des contenus, et on est aussi très attaché au côté convivial. Donc on veut que ce soit une vraie réunion de famille, entre guillemets, du retail, des technologies aussi qu'on fait venir, qu'on essaie de choisir parce qu'elles sont nouvelles, innovantes. Donc on a ce regard de retailer, on est nous-mêmes issus du retail. Et donc on a vraiment un regard acéré sur qu'est-ce qui fait que le retail se transforme aujourd'hui, quels sont les sujets qui vont intéresser nos pairs, enfin nos ex-collègues du retail, et quelles sont les startups qui font bouger le schmilblick, entre guillemets.
En général, dans les conférences, quand on assiste à ce genre d'événement, c'est très marqué, ça va dans une direction. Donc là, on est à la moitié de la journée, j'assiste à toutes les conférences ce matin, et c'est vrai que ça, on parle de conversationnel, de RSE, ça brasse beaucoup de sujets, et des sujets d'actualité, donc c'est très intéressant.
Exactement.
Et c'est très aussi drivé sur l'action.
Ah bon, on est dans le concret, hein. Les retailers, c'est des gens pragmatiques. Nous, ce qu'on essaie, c'est de poser, pas les questions qui fâchent, mais en tout cas les vraies questions, avec derrière du livrable, du contenu, du résultat, de l'action. On n'est pas là pour juste poser, se faire plaisir et discuter. C'est aussi pour faire avancer les choses. On a beaucoup de messages qui sont passés aujourd'hui, notamment sur la réinvention des retailers traditionnels, comment faire face à des géants de l'e-commerce, comment se transformer aussi sur le plan éthique et développement durable. On va voir tout à l'heure la Chine, et on va voir si c'est effectivement une source d'inspiration et ce qui est transposable ou ce qui l'est moins. Et puis on va parler aussi, et c'est ce qu'on a fait ce matin, de commerce conversationnel et de tout ce qui est intelligence artificielle et comment ça modifie de manière structurelle et structurante le métier de retailer.
Michel, donc moi j'aurais 2-3 questions pour toi. La première, tu dirais où est-ce qu'on en est dans la maturité de l'e-commerce en France et quels sont les gros challenges des retailers ? C'est quoi le sujet du moment ?
Bon, on est clairement un pays mature sur le e-commerce, on l'a toujours été. On est quand même dans le top 5, on va dire, au moins européen et sinon international. On a des vraies spécificités. Je pense que la France, c'est le pays où il y a le plus de marketplace. Donc on est très créatif dans ce domaine. On a inventé le drive. Donc tout ce qui est omnicanalité a vraiment été natif en France. On est le pays, effectivement, qui a aussi inventé le click and collect avec les points relais et qui inspire maintenant beaucoup d'autres régions. Donc je pense qu'on n'a vraiment pas à rougir de notre positionnement, de notre place et de notre créativité. Après, il y a des sujets qui sont plus lents en termes d'adoption. Pour des raisons culturelles. Typiquement, on parlait commerce conversationnel. Le voice commerce n'a pas encore pris. C'est quelque chose qui suscite pas mal de méfiance, de défiance, alors qu'aux États-Unis et en Chine, c'est quelque chose qui s'accélère. Donc on observe ça avec neutralité et bienveillance. On n'est pas du tout sur il faudrait faire mieux ou faire moins. Je pense que chaque pays et chaque région a sa culture propre. En tout cas, nous, je pense qu'en France, on est vraiment bien servi du côté commerce.
Ça fait plus de 10 ans, ça fait peut-être même plus de 12 ans que je suis dans l'e-commerce, et j'entends constamment cette phrase, ce qui arrive en France, c'est d'abord aux États-Unis, 5 ans avant, on est en retard, et maintenant on voit la Chine.
Faux.
C'est quoi ton point
Faux.
De vue là-dessus ?
Ce que je te disais à l'instant, qui est-ce qui a inventé le drive ? Aujourd'hui, tu vois Walmart qui lance à grand renfort de pubs au Super Bowl le fait qu'ils font un drive, excusez-nous, mais on l'a inventé il y a longtemps. On a des idées aussi créatives, on parle de drive, Leclerc a inventé ce qu'ils appellent le drive piéton, voilà des idées comme ça. Je pense qu'on revient à cette vieille maxime des années 70, on n'a pas de pétrole mais on a des idées, et je pense que la créativité elle se voit chez les retailers qui vraiment ont une bonne énergie pour se réinventer, et puis on a plein de choses à montrer, on fait des retail tours dans le monde entier, certes on va voir des concepts un peu partout en Chine, aux États-Unis. Mais il y a des choses extraordinaires à voir. Hier, on accompagnait un groupe sur la région lilloise. Ils ont été bluffés par les concepts, par l'innovation qui se passe ici. Et tous les Décathlon, Auchan, Pickwick et j'en passe, et Boulanger et d'autres, ont des concepts extrêmement innovants que peuvent nous envier les Américains.
Et on peut également l'appliquer, pas juste les retailers, mais les entreprises, les solutions. On voit des solutions super, des miracles. On parlait de Marketplace, absolument, par exemple, aux États-Unis, des Algolia. Il y a plein de sociétés qui sont vraiment canons et qui font des choses innovantes.
Absolument.
Dernière question, parce que je sais que tu dois y aller. Peut-être les tendances l'année prochaine sur la France, tu verrais quoi ? C'est quoi les grandes choses à regarder ?
Alors, je pense qu'on est... On est un tournant. On l'a vu tout à l'heure, c'est cette conférence que j'animais sur RSE et retail, ou développement durable et retail. Est-ce qu'on passe de la cerise au gâteau ? Et clairement, c'est le sentiment que nous donnent aujourd'hui tous les retailers à qui on parle. Commencer par Boulanger, qui est notre partenaire et qui a pris la parole avec beaucoup d'humilité. Tout le monde se pose la question de la prochaine révolution, c'est quoi ? On est passé par le digital il y a 15-20 ans, et je pense que ça touche aujourd'hui à sa maturité. La prochaine grande révolution pour les retailers, c'est de se mettre en conformité avec la planète et avec les petits-enfants à qui on va laisser une planète probablement difficile à gérer. Donc on a une grosse responsabilité, et je parle de l'industrie, pour faire évoluer non seulement les modes de consommation, parce que tout ne relève pas de la responsabilité publique, mais surtout notre manière, nous, de produire. Et les exemples qui étaient présentés avec Camif, Matelsom, le slip français, Boulanger, Greenwiz, sont absolument exemplaires de la direction que ça prend. Donc je pense que c'est ça la vraie prochaine révolution, c'est une révolution verte. Donc après le Black Friday, on va avoir le Green Tuesday ou le Green Friday.
Et sur ce coup, on aura peut-être même de l'avance sur les autres régions, parce qu'en France, on est vraiment
absolument
très sensibilisé à tout ça.
Exactement.
Merci beaucoup, Michel. Bonne
Merci
journée.
Merci, Adrien.
Merci. Laetitia, est-ce que tu as du pétrole ?
Ben non, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
Mais on a des idées, exactement, exactement. Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Génial. Je trouve Monsieur Coq remarquable.
Oui, j'ai mal prononcé son nom. Okay.
Non, alors, il a réussi en très peu de temps à caser des idées qui sont très importantes ici dans notre podcast. Donc moi, je m'incline et je valide tout son discours. Et je pense que 2020, effectivement, sera conversationnel sur le e-commerce et sera également RSE. Voilà.
Alors, j'ai pris quelques notes. Bon, l'événement, il était superbe, très intéressant, des conférences très intéressantes. J'ai fait un compte rendu des différentes conférences, et j'ai récupéré 2-3 informations que je voulais les partager. Donc, elles sont un petit peu dans le désordre, parce qu'en fait, j'ai pris des informations à droite à gauche. Booking qui parlait, qui expliquait dans son call center, service client, ils ont 8000 personnes. Ces 8000 personnes, elles travaillent sur les personnes qui les appellent à propos de réservations en ligne, et ça représente 0,001% des réservations quotidiennes. Donc en fait, le call center, il adresse 0,001% des réservations de la journée. D'accord ?
Okay.
Tu me suis jusque-là. Donc ça, c'est les gens qui veulent un contact humain.
8000 personnes pour 0,0.
Et alors attends la suite. Donc sur toutes les 100% des réservations, 0,001% vont appeler le call center. 93% des gens qui vont appeler, ils vont trouver leur réponse tout seul, parce que le chatbot, l'IA, etc., ils vont réussir à avoir les informations. Donc 7% de ces 0,001% vont avoir quelqu'un au téléphone et vont être avec ces 8000 personnes. Et le ratio qui était donné, c'est que tu as ces 8000 personnes qui travaillent sur, faudrait faire le calcul, 7% de 0,001%. Mmh. Donc c'est infime. Tu as énormément de personnes qui travaillent pour un petit nombre de commandes, proportionnellement, parce qu'en volume, ça représente pas mal de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, les demandes sont plus complexes. Toutes les questions faciles, toutes les questions simples, elles vont être traitées, et la durée moyenne de l'appel, elle va pas réduire, mais elle va s'allonger, parce que les questions questions elles sont plus compliquées, ça demande une intervention humaine qui comprenne un peu plus. Et ce qu'ils expliquaient, c'est que justement, tu as vu l'épisode de Bref qui explique un peu en call center comment c'est. Non, tu l'as pas vu
mais si, si, je les ai tous vus.
Ouais, voilà, ouais, on les a vus plusieurs fois.
C'était l'un de ces jobs avec un call
center. Et en fait, tu vois, tu as les scripts, tu fais ça, oui, non, tu vas à droite, gauche, etc. Donc c'est un. C'est un quand on a, j'ai perdu le mot. Mais bon, c'est un. J'ai oublié le mot, peu importe.
Grocery ?
Grocery, c'est ça. Non, non, c'est un. Oh là là.
Tu l'as dit, script.
C'est un script, ouais, mais c'est un. Bon, bref. Donc, tu as des scripts, exactement. Et en fait, donc, tu choisis. Tu ne peux plus appliquer ce modèle-là, parce qu'aujourd'hui, les choses, elles sont plus complexes. Et tu as besoin de recruter les personnes que tu as recrutées il y a 2 ans, qui pouvaient suivre quelque chose de linéaire. Elles ne peuvent pas s'adapter. Enfin, ce ne plus les mêmes personnes qu'on a besoin, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de personnes qui puissent comprendre le client, qui puissent comprendre que les choses, elles sont un peu plus complexes. Un exemple très simple. Tu as quelqu'un qui arrive, qui appelle, qui dit j'ai fait une réservation, j'arrive, l'hôtel n'existe pas. Tu peux pas dire hôtel n'existe pas, reva sur le site et ça. Non, il faut avoir de l'empathie, il faut comprendre, il faut dire écoutez, on va vous aider, etc. Tu vois, il faut avoir d'autres compétences, c'est pas juste lire ton script. Ce qui amène à un autre concept sur l'IA. Je sais plus si c'était dans cette conférence ou pas, mais il y avait des discussions autour de l'intelligence artificielle et de l'humain, comment ça va remplacer ou pas ou compléter l'humain. J'ai bien aimé cette phrase qui est l'intelligence artificielle pourra détecter les émotions, mais jamais réagir avec les émotions. Donc l'humain aura toujours sa place. Et là, on est exactement dans l'exemple que je t'ai cité. Si tu appuies ton hôtel, tu ne peux pas être en voie de robot. Il faut dire, écoutez, je comprends votre état. On va tout faire pour vous aider. Tu as un peu d'empathie. Comprends. En fait, la voix de quelqu'un qui est énervé, tu ne peux pas lui répondre en mode robot. Il faut avoir une voix un peu plus douce, etc. Donc ça, c'est un exemple. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant de voir comment on utilisait le call center dans ce contexte-là. Grosse conférence sur le conversationnel. Je sentais que c'était un sujet qui tenait à cœur Michel, parce qu'il avait des intervenants, il y avait une sorte de table ronde. J'aimais bien le format.
Il avait fait venir quels intervenants?
Je les ai plus ici.
Il n'y avait pas la redoute?
Attends, je vais te dire tout de suite, parce que je l'ai ici. Tu as pour le donc sur le conversationnel, ça va être ici, tu as La Redoute, Intermarché, Microsoft et Booking. Et donc les exigences du client sur le conversationnel, et donc le conversationnel, on entend chatbot par exemple, mm-hmm. messaging, etc. Ça va être avoir une réponse rapidement et avoir une réponse adaptée et personnalisée. C'est là où on retrouve des concepts d'intelligence artificielle, de data, etc. Le RSE, c'est également quelque chose qui tient à cœur Michel. En réalité, ça tient à cœur tout le monde, mais c'était dans le sujet. Alors, avant que tu me poses la question, je vais te dire tout de suite qui était là également. Et c'était tu avais Camif Matelsom, Slip Français, KPMG, Greenwiz et Boulanger. Et donc on discutait quelle réalité économique. Et en fait, on oppose souvent le business mm-hmm. model parce que ça coûte moins cher de faire produire en Chine et de le faire venir. Donc le slip français, ça s'applique dans leur cas de figure. Il ne faut pas le généraliser, mais je trouvais ça intéressant. L'avantage de le faire en France, c'est l'inconvénient, c'est le coût. Mais l'avantage, c'est de travailler en flux tendu. Tu n'as pas de leftover, donc tu n'as pas de reste.
De reste,
et tu as des stocks, des stocks qui sont agiles et que tu peux adapter en cours de saison. Et l'exemple qu'il donnait, c'est tu vois au bout d'un mois et demi qu'il y a une tendance pour un produit particulier, tu vas pouvoir réassortir le stock et t'adapter en cours de saison, ce qui est complètement impossible ou très difficile quand le stock est en Chine. Et le dernier impact, le dernier élément que j'avais pas nécessairement cerné aussi fort, c'est on a déjà parlé que le RSE c'est important pour le consommateur, on a vu que le RSE c'était important pour les employés, mais c'est également important pour le financement. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais en tout cas ils l'ont cité, les banques ou les investisseurs commencent à regarder cet élément-là, et donc je trouve ça assez...
Tu veux dire qu'une entreprise
qui souhaite lever de l'argent,
si elle a déjà un plan RSE,
ça va l'aider. Voire, à contrario, si elle n'a rien du tout, ça va peut-être faire tiquer les VC ou les fonds.
D'accord.
Donc c'est intéressant de voir que ça va au-delà des employés et des clients. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu en quelques notes, il y avait beaucoup plus d'autres choses à dire, mais c'était en gros ce que je voulais dire.
On passe à la rubrique news. Adrien, tu souhaitais nous parler de PayPal?
Exactement, c'était la grosse news qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Donc PayPal qui rachète une société qui s'appelle Honey, donc le miel, pour 4 milliards de dollars. Donc moi, quand j'ai vu le chiffre,
Adrien m'a envoyé la news, mais il m'a dit,
dans
c'est
la
pas
seconde,
possible.
J'ai envoyé,
non, mais moi aussi, je me suis dit, c'est pas possible, 4 milliards de dollars. Et du coup, ça m'a... Petit aparté, je me suis interrogée sur les prix, enfin sur les prix, la valeur qu'on donne au rachat. C'est toujours, surtout à ce micro-là, on annonce toujours des levées de fonds parfois improbables et des rachats assez aussi incroyables, quoi. Donc je me demande si on n'atteint pas un certain point ou si on va aller encore beaucoup plus loin dans la folie aux milliards.
Ça dépend toujours de ce que tu rachètes, ce que tu valorises, comment tu le valorises. Soit il y a une technologie, soit il y a des personnes que tu rachètes, soit de la donnée, ou tout simplement tu penses que la société va continuer à croître et que elle va pouvoir générer beaucoup plus de revenus et augmenter sa capitalisation. Ce qu'il faut voir, c'est quelle est la raison pour laquelle PayPal l'a racheté. À haut niveau, on peut se dire qu'il souhaite être plutôt dans le customer journey. Pourquoi ? Alors d'abord, je devrais commencer par expliquer ce que c'est Crony. Tu connaissais avant ? Tu connaissais ? D'accord, je ne connaissais pas. Donc juste pour expliquer pour les auditeurs, pour les poditeurs.
Les poditeurs.
Ouais, ça fait un peu has-been, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se dit.
Ça ne se dit pas comme ça.
Ça ne se dit pas ? Ok.
On va dire auditeur, ça va.
Alors, pour les auditeurs, tu as une extension, c'est une extension navigateur que tu vas installer, qui fonctionne simplement en tant qu'extension navigateur et qui va te permettre d'avoir les meilleurs plans, les bons plans, en appliquant des coupons. Donc ils vont récupérer les codes de réduction, tu vas les appliquer, je crois qu'ils ont une trentaine, 30 000 sites marchands sur lesquels ça fonctionne, et automatiquement quand tu
ça
vas naviguer,
automatiquement.
Et voilà, tu vas naviguer, que tu vas rajouter un produit au panier, que tu vas aller dans le checkout, ça va appliquer, et donc sans t'en rendre compte, tu vas avoir 5%, 10%.
En fait, c'est une automatisation des réductions, au lieu d'aller sur ton
exactement.
Site... j'en sais pas, mon ranin.com, je sais même pas si ça existe encore.
Non, mais t'as Code Réduc, je crois, un truc comme ça.
Code
Réduc,
ouais. Il y a le Figaro aussi qui publie pas mal de choses. Mm-hmm. Au lieu de le copier-coller, voilà, cette extension, vous l'ajoutez automatiquement.
Donc, PayPal, ils sont connus pour leurs moyens de paiement qui arrivent tout à la fin du cycle du Customer Journey. Et donc, en ayant cette application, ils vont être beaucoup plus tôt parce que ça va être directement dans le checkout et ils vont pouvoir intervenir, récupérer des informations. Donc, PayPal, ils ont 300 millions d'utilisateurs. Tu as à peu près, je crois que c'était 17 millions d'utilisateurs actifs pour Honey. Donc, on voit que c'est beaucoup plus important, 20 fois plus pour PayPal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si tu réfléchis un petit peu, je me suis posé la question pourquoi, d'où ça venait, est-ce que c'était pas délirant ? Et je pense que c'est un très grand risque pour PayPal. Pourquoi ? Parce que tu mets 4 milliards sur la table pour acheter une société qui peut disparaître en une seconde. Pourquoi ? Parce que ça reste une extension. Donc demain, Google, parce que la grande majorité des navigateurs, c'est Google Chrome, Google décide de changer sa politique ou pour une raison ou pour une autre, il décide de te couper, et bah tu perds tout ton business. L'autre chose, c'est que la majorité du trafic aujourd'hui utilise le web mobile. Il n'y a pas d'extension. Les extensions aujourd'hui n'existent pas sur les navigateurs mobiles. Donc, le Honey ne fonctionne pas. Ils ont une bêta application, mais je pense que ce n'est pas du tout les mêmes réflexes que télécharger une app et aller naviguer. Donc, je ne comprends pas très bien comment ça peut se mettre en place et continuer. Et également, une chose importante à comprendre, c'est que le Honey, la manière dont ils récupèrent, dont ils font de l'argent, c'est avec les informations de navigation et toute la data,
toute
la donnée qu'ils récupèrent des consommateurs. Donc ils voient tout, ils récupèrent toutes les informations, sur quel site tu navigues, qu'est-ce que tu fais, tes comportements d'achat, etc. Et ça, ensuite, ils peuvent le vendre pour de la pub ou à des annonceurs ou des sites tiers. Donc, une des théories qui existe, ça serait peut-être que PayPal, plus que la technologie Honey et ce que je t'ai dit, la complémentarité des plateformes, c'est peut-être aussi tout simplement, enfin, je sais pas si c'est simple, mais récupérer toutes les données qu'ils ont pu accumuler sur la navigation et les comportements d'achat. Mais bon, ça peut être vrai, mais en même temps, PayPal a tellement d'informations avec ses moyens de paiement.
Est-ce que c'était nécessaire
Voilà, ils sont plutôt dans le customer journey, donc ils ont peut-être plus d'informations. Donc on va sur ça, mais je pense que c'est surévalué. J'ai du mal encore à trouver sens à cette valorisation.
À suivre. On passe à la rubrique Amazon.
Et je vais encore parler, mais ensuite je vais me taire, c'est toi qui vas beaucoup parler. Je voulais juste mentionner donc, quelque chose qui a également été, qu'on a vu sur les news, c'est IKEA qui a décidé de quitter Amazon. On avait vu Nike, je crois que c'est le dernier épisode, Laetitia.
Non, il y a déjà deux ou trois épisodes.
Okay. Ouais. Nike qui avait décidé de quitter Amazon. Alors la raison pour Nike, c'était, ils ont eu leur raison d'aller directement avec le consommateur, mais c'était également une des choses qu'on expliquait, c'est comment est-ce qu'ils veulent se positionner sur le marketplace par rapport à leurs produits. y a beaucoup de contrefaçons de Nike, et un des risques qu'on voyait lorsque Nike a quitté Amazon, c'est de laisser un peu se développer les contrefaçons. Et Birkenstock, par exemple, qui avait fait il y a 3 ans qu'il avait quitté Amazon, a vu se populariser beaucoup, beaucoup de produits qui venaient de Chine et qui étaient des contrefaçons. Donc pour revenir à IKEA, est-ce que ça veut dire que d'autres retailers vont quitter Amazon? Je ne sais pas. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit le cas. Il y a moins de cas de contrefaçons avec IKEA, et de toute façon, c'est surtout des ustensiles et des accessoires qu'ils vendaient sur Amazon. En tout cas, ce que je vois, Laetitia, c'est que depuis des années, quand tu vas voir certains retailers, Amazon, c'est donc le concurrent, et une des questions qu'ils te posent, c'est sur quel cloud tu as ta technologie, ta plateforme, ouais. Et si tu dis Amazon, sur AWS, certaines sociétés, ouais. C'est un no-go et ça te disqualifie. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, la plupart des retailers voient Amazon comme un concurrent. Comme on le voit quand même partenaire, c'est un peu compliqué, ça devient de plus en plus compliqué. Donc il est temps de prendre des actions, ou en tout cas que les marques elles décident ce qu'elles veulent faire.
On passe à la rubrique News Simple et Funky.
Tu chantes pas cette fois?
Non, si, peut-être. Simple et Funky, Simple et Funky.
Les auditeurs qui ont quoi, moins de 30 ans
ne comprendront pas.
C'est quoi, 30 ans, 35 ans même, peut-être, je ne sais pas.
Ouais, je dirais moins de 35 même. Allez, la start-up Woo, qui est spécialisée dans le marketing d'influence, vient de lever 3 millions d'euros pour s'étendre à l'international.
La FEVAD nous annonce que la dépense moyenne en ligne est de 171 euros pour Noël.
Airbnb enregistre une perte de 100 millions de dollars au second trimestre 2019.
L'action Alibaba flambe de plus de 6% pour son entrée en bourse à Hong Kong.
Et enfin, LVMH a racheté Tiffany. L'instant réclame. Si vous aimez ce que vous allez écouter, enfin ce que vous avez déjà écouté, laissez vos commentaires ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à tous pour votre soutien. On adore lire vos commentaires, on adore s'améliorer grâce à vos commentaires, donc continuez à nous contacter et à nous donner tous vos retours sur parfois les erreurs que nous commettons ou sur les bonnes actions que nous commettons.
Vous trouverez énormément de liens dans la description de l'épisode, que ce soit pour nous contacter, pour vous inscrire ou pour nous suivre sur les réseaux sociaux.
Et enfin, nous sommes un podcast indépendant. Nous ne sommes financés par personne sauf nous. Notre avis n'engage que nous.
Et si vous souhaitez assister à notre émission, vous pouvez nous contacter. On enregistre à Paris et donc on sera plus
que ravis. Par contre, c'est pas gratuit, c'est payant. Voilà.
C'est payant.
Mais je plaisante. Ah, okay.
Un verre d'eau peut-être. Non, on sera ravis de vous voir et de vous recevoir. Laetitia, commence à faire humide dans cette salle.
On a besoin d'un petit sirop.
le temps avance. Pour cette deuxième partie d'émission, tu avais deux news à nous partager sur la partie social media e-commerce. Tu voulais nous parler de TikTok tout d'abord?
Ouais, je voulais vous parler de TikTok. Adrien, t'as téléchargé l'application ou pas depuis que j'en parle ou non, toujours pas?
Non, mais moi j'ai mes nièces qui l'utilisent. Donc,
ah d'accord. Donc ça y est, maintenant tu vois ce dont il s'agit.
Au niveau, je vois ce que c'est, mais non, je ne suis pas téléchargé.
Elles ont quel âge, tes nièces?
12 ans, 11-12
voilà,
ans.
Voilà, bon, c'est typiquement la cible ouais. de TikTok. TikTok, il leur manquait quand même une fonctionnalité pour les diriger un petit peu plus vers le e-commerce. C'était tout simplement la redirection depuis le réseau social vers un site e-commerce, donc par exemple un lien. TikTok n'avait pas ça. Il y avait un chiffre qu'ils avaient bien en tête, c'était que le commerce sur les réseaux sociaux avait bondi en 2 ans de 110%. Et que les réseaux sociaux sur lesquels ça fonctionne, c'est Facebook, Insta et Pinterest. Donc TikTok, le chinois TikTok, accuse un retard assez conséquent, mais peut jouer sur sa communauté qui est de plus d'un milliard d'utilisateurs. Donc voilà, la fonctionnalité e-commerce, c'est tout simplement pour eux, à ce stade-là, de pouvoir ajouter un lien dans la bio, comme sur Instagram par exemple, un lien cliquable, et un lien dans la vidéo. Alors dit comme ça, ça peut paraître un peu débile. Toutefois, ça reste pour eux de la redirection, ça reste pour eux un big step parce qu'ils partent vraiment from nowhere. Donc voilà. Et c'est uniquement disponible pour certains utilisateurs pour le moment. Donc c'est encore un peu en test.
Et le lien que tu cliques, ça t'envoie sur le site
e-commerce.
E-commerce de la marque, c'est
de
ça
la marque, exactement.
C'est pas un site TikTok.
Non, non, okay. Non, non, non. Et maintenant, je vais vous parler de Facebook qui va peut-être perdre des utilisateurs en France pour la première fois de son histoire. Alors, c'est une info à prendre avec des pincettes parce que c'était une étude qui a été réalisée par eMarketer qui a réalisé une étude sur deux territoires, la France et l'Allemagne, qui sont vraiment des territoires où Facebook est l'une des plateformes préférées et les plus utilisées. Voilà. Donc, dans cette analyse, on peut y voir que l'Institut annonce une baisse de 1,3%, soit 27,6 millions d'utilisateurs en France pour 2019. En 2002, on va commencer à atteindre un seuil un peu critique pour Facebook, puisqu'on aura moins d'un Français sur deux qui utilisera la plateforme. Et la raison de cette petite baisse, bah, ce sera les jeunes, en fait, puisque les jeunes ne vont même plus quitter la plateforme, ils vont carrément plus s'inscrire. Bah, en plus, moi, je le constate en discutant avec des cousines, des cousins beaucoup plus jeunes. Il n'y a pas de compte Facebook. Alors si, parfois, quand ils ont un Instagram, parce que c'est la même, c'est la maison mère Facebook qui gère ça. Mais sinon, ces jeunes-là vont plus aller sur des réseaux sociaux de niche. Donc voilà, on en parlait, TikTok, ou sur du 21 Button, plus sur du fashion, que sur du Facebook. Là où nous, les plus âgés, là, si on devait s'inscrire au tout début sur une plateforme, bah, la porte d'entrée, ça restait Facebook. Voilà. Mais bon, l'analyse dit tout de même que Facebook restera la plateforme préférée des Français.
Laetitia, cette semaine, pour le Focus Pocus, tu veux nous parler du Black Friday.
Et oui, alors, je me suis longtemps posé la question, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas ? Toutefois, ça reste un des marronniers du e-commerce. Si on n'en parlait pas, bah, ça faisait un peu paringard, mais en tout cas, on passe à côté d'une information importante, surtout que cette année, il y a quand même un mouvement qui prend de l'ampleur, qui s'appelle le Make Green Friday Again. Je vais d'abord revenir sur l'origine du Black Friday, parce que du coup, en préparant cette émission, je me suis dit que moi, je ne savais pas d'où ça venait, à part que oui, ça venait des États-Unis, mais où, quand, comment, aucune idée. J'ai même l'impression que le Black Friday a toujours été là, un peu comme je le disais lors d'Halloween, alors qu'en fait, non. Donc à l'origine, le Black Friday, c'est un épisode commercial qui daterait de 1930 à peu près, mais qui a été popularisé et surtout propulsé dans les années 50, qui sont une grande année de consommation et de publicité aux États-Unis. Je ne sais pas si tu connais la série Mad Men, Adrien, mais voilà, les années 50, c'est l'apogée années 50-60 des supermarchés, de la publicité, des campagnes pour des gros acteurs du retail. Je pense à des Walmart, des acteurs comme ça. Et c'est à cette époque-là que le terme Black Friday est apparu. Le Black Friday, ça a lieu le lendemain de Thanksgiving, qui est le dernier jeudi de novembre. Donc là, on y est. Demain, c'est Thanksgiving aux États-Unis, et puis vendredi, on attaque avec le Black Friday. Le but de cette opération commerciale, c'est d'anticiper les achats de fin d'année. En tout cas, même pas d'anticiper, mais donner un coup d'accélérateur. En France, le Black Friday est arrivé timidement dans les années 2012, 2013, 2014, et principalement sur sur Internet, donc en ligne. On a attendu 2016 et 2017 pour voir arriver des promotions dites Black Friday, mais en boutique. Et depuis, ça ne s'arrête plus. Là, on ne parle même plus de Black Friday, on parle de Black Friday Week, j'ai entendu. Enfin voilà, ça fait déjà une semaine, à tel point que moi, la semaine dernière, je croyais que le Black Friday, c'était vendredi dernier et que j'avais loupé les chiffres. Voilà. Donc en fait, on est dans une confusion permanente parce qu'on est dans une course à qui vendra le plus, qui fera la meilleure publicité. Je ne sais pas si tu as vu Adrien ou même entendu, mais il y en a de partout, que ce soit à la télé, à la radio, sur Internet, dans vos boîtes mail, sur les réseaux sociaux. On est saturé. Les marques en France qui ont été pionnières sur le Black Friday, ça reste Auchan, Darty, Fnac, La Redoute, Leroy Merlin, bon, toujours les mêmes. Les chiffres, alors là, je vais vous citer les chiffres de 2017. J'ai pas pris les chiffres de 2018 parce qu'ils ont été largement faussés à cause de la crise des Gilets jaunes. Donc, j'ai préféré prendre les chiffres de 2017. Adrien, à ton avis, quel était le... panier moyen, combien est-ce qu'il chiffrait le panier moyen en 2017 ?
250.
Un petit peu moins, beaucoup moins.
Ouais, 120.
On est sur 110 euros.
Je t'ai dit 250 parce que c'est ce que j'ai dépensé cette année.
Ah, t'as déjà fait le Black Friday, toi ?
J'allais te poser la question. T'as déjà acheté quelque
non,
chose ou pas ?
Non, j'ai rien acheté et on va en venir en deuxième partie.
D'accord, un point dans la large. Vas-y.
Pourquoi est-ce que je ne suis plus Black Friday, mais plutôt Make
White
Friday,
Friday.
Voilà, exactement. Green Friday. Donc, le montant des ristournes peut aller jusqu'à 80%. En 2017, sur Amazon, ce sont plus de 1400 produits qui se sont écoulés à la minute. 42,8 millions, c'est le nombre de transactions effectuées en ligne. À minuit 30, on enregistrait un pic de transactions atteint, donc dans la nuit du jeudi au vendredi. 37% des ventes sont dédiées aux vêtements et aux accessoires. Et aujourd'hui, voilà là où je voulais en venir, les Digital Native Vertical Brand, donc des marques qui se sont érigées et qui ont fait tout leur succès en ligne, s'érigent contre le Black Friday. Et c'est notamment le patron de Fago, tu connais cette marque, Adrien ?
Oui.
Qui est une 100% DNVB, qui a lancé le mouvement Make Friday Green Again. L'idée, c'est de ne pas proposer de promotion pendant cette journée-là et de dénoncer tous les méfaits que le Black Friday a. Donc, c'est à la fois un impact sociétal, parce que souvent, les gens en tout cas, les marques et les enseignes qui proposent des promotions comme ça, derrière, augmentent leur production, augmentent leur logistique, augmentent leur rendement, augmentent leur livraison, ce qui, on est obligé d'employer des gens et de manière de plus en plus précaire. Et puis aussi, c'est un impact environnemental, je le disais, sur la livraison. Oui, Adrien ?
Pendant la conférence la semaine dernière, tu as Camif qui parlait,
ouais,
et qui expliquait.
Camif.
Non, tu sais ce qu'ils font ?
Non.
Non, Camif, c'est le mode de l'intérieur, quoi, le mobilier intérieur. Black Friday, tu sais comment ils le font ?
Non.
Ils déconnectent leur site.
J'allais y venir, voilà. Donc, tu peux déconnecter. Alors, mais c'est je ne sais pas si c'est une très bonne ou voilà, mais ça fait partie des initiatives que certaines marques engagées prennent. Et il y a tout un collectif qui s'est organisé autour du patron de Fago, donc c'est environ 80 marques qui ont décidé, voilà, le 29 novembre prochain, soit on ne pratique pas de promotion, soit on éteint notre site, soit on propose des alternatives. Je donne sur mon site quelques tips pour être un petit peu plus green. Parmi ces marques, on peut citer Bonne Gueule, Le Grand Dessing, Typologie, et aussi des marques moins digitales, native brand comme Nature et Découverte. Et puis Adrien venait de le citer, la Camif, entre autres. Il y a des marques aussi qui invitent les consommateurs à faire du tri dans les armoires, à revendre les vêtements ou faire de l'upcycling. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a encore... Alors, l'année dernière, ce mouvement émergeait. Cette année, c'est vraiment une opposition, c'est même quasiment politique, j'ai l'impression. Parce que voilà, les gars sont organisés, ça devient un collectif, il y a des idées communes. Et puis, il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a les gens un peu fans d'Amazon et de ce concept-là, parce que ce concept-là a été vachement démocratisé grâce ou à cause d'Amazon. Et puis, les gens qu'on pourrait qualifier de réfractaires. Et c'est absolument pas péjoratif. Je suis vraiment dans un schéma pour et contre lorsque je dis ça. Ce qui fait que pour le consommateur, c'est un peu difficile. Parce que toi, tu me poses la question, est-ce que tu as acheté des choses ou tu vas acheter des choses pour le Black Friday ? Moi, il y a encore 2 ans, je t'aurais dit, mais bien sûr, je n'attends que ça. Mon panier est déjà prêt. Et aujourd'hui, c'est non. J'ai répondu à ta question, Adrien.
T'as répondu parfaitement à mes questions. T'achèteras des choses pour Noël ?
Non plus. Non, mais en plus,
pour les soldes.
Je me suis rendu compte, grâce à la remarque d'un de nos auditeurs, que effectivement ma consommation était beaucoup trop compulsive sur Amazon. Donc ça suffit. Là, j'ai dépassé la limite. Voilà.
Donc tu vas essayer d'être dans le minimalisme, c'est ça ?
Voilà.
Acheter moins. Et
c'est mon pari. Non, et pourquoi pas faire des cadeaux do it yourself ? C'est une idée de ma sœur qui finalement me réjouit.
Okay,
voilà,
super.
Donc pas de Black Friday, pas de cadeaux, rien du tout, minimaliste.
Mais avec le sourire.
Voilà, exactement,
okay.
Toujours.
Attends, ton banquier sera content, ton néo-banquier sera content, l'ordinateur, l'IA qui gère ton
exactement.
Compte néo-banque sera très contente.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé cet agréable moment avec nous.
Laetitia, un autre épisode qui se déroule sans accro. Il n'y avait pas d'accro cette fois-ci.
Non, ça va, c'était calme, je sais pas, c'est bizarre là.
Ok, super.
super alors. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lecafedelecommerce.fr et profitez-en pour vous inscrire à notre newsletter.
on traque l'analytics de tout. Ouais. Et donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont sur notre site. Donc, on continue à le mettre
ouais,
à jour.
Ouais, mais on continue, c'est important.
Et en fait, pourquoi,
revanche,
je parle du...
ouais, vas-y.
Pourquoi je parle du site, c'est parce qu'il y a un espace commentaire sur chacun des épisodes. Donc, je continue à chaque fois qu'on le publie à mettre à jour le site sous forme de blog. Et ça permet, si vous souhaitez nous contacter et parfois réagir sur l'épisode, il y a deux manières simples, on va dire presque anonymes. Donc, le blog, c'est complètement anonyme, tu peux mettre ce que tu veux. Et l'autre manière, c'est sur YouTube, où là, tu n'as rien à installer, tu peux très facilement aussi mettre un commentaire.
Et donc, du coup, moi, j'aimerais bien qu'on augmente nos stats d'écoute via YouTube. Voilà, parce que ce sont un peu misérables.
Pourquoi
voilà.
Tu demandes aux gens d'écouter à
plusieurs
endroits.
S'il vous plaît, vous êtes au bureau.
Partagez tout simplement.
Ouais, partagez-le. Et si, puisqu'on parle de statistiques, vous êtes nombreux à nous suivre sur Instagram et à nous écouter, surtout sur Apple Podcast. Avec Adrien, on est assez... Enfin, surtout lui, il est assez surpris de ce chiffre. Le mobile aussi remporte la palme.
Et ça serait aussi intéressant si vous pouvez nous faire un retour sur dans la description, il y a un petit lien anonyme, vous cliquez dessus, vous nous envoyez un message sur la durée idéale du podcast. On essaie différents formats, on regarde un petit peu l'impact que ça a sur les stats. On a nos convictions, mais on essaie toujours de les confronter avec la data. Donc si vous avez des préférences, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci à tous donc pour votre écoute. C'était une conclusion complètement déstructurée, mais c'est ce qu'on aime. On est disponible partout. Laetitia, ce podcast s'autodéfera dans 5 secondes.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0.